Elle marchait devant moi dans le couloir, le dos voûté, les genoux légèrement pliés, sans soulever les pieds. Elle semblait glisser sur le parquet, silencieuse. Le moindre mouvement donnait l'impression de lui coûter d'insupportables efforts. Elle s'affaissa en soupirant profondément dans un fauteuil recouvert d'une housse de laine tricotée au crochet. Elle me fixa le regard vide. La pièce était plongée dans l'obscurité. Tous les volets avaient été tirés. La femme avait juste laissé une fenêtre ouverte pour permettre à l'air de circuler. Des raies de soleil filtraient à travers les claires-voies. J'avançai une chaise et m'installai près de la table. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire ce matin, j'enquête sur les circonstances de la mort de votre fils Bernard. Actuellement, cet assassinat reste bien mystérieux. Nous n'avons guère d'éléments sérieux pour orienter nos recherches. Nous ne lui connaissons aucun ennemi. Sa vie sentimentale apparaît on ne peut plus simple. Pour être tout à fait franc, il y a tout de même un épisode qui retient mon attention. Un jour que votre fils n'a pu connaître, celui de la mort de son père. J'observais les réactions de mon interlocutrice, mais l'évocation de la fin de son mari ne modifia en rien son comportement. J'ai appris ainsi dément les conditions dramatiques dans lesquelles votre mari a disparu. Absolument rien ne me permet de l'affirmer, mais il est tout à fait possible d'imaginer que votre fils ait été exécuté pour les mêmes raisons que son père. Vous ne le pensez pas ? J'avais l'impression de parler à un mur, à un mort-vivant. Madame Thirault maintenait ses yeux braqués sur moi, mais son regard ne parvenait pas à s'accrocher, comme s'il me traversait et se portait loin derrière. Je poursuivis. Je sais aussi qu'aucune enquête n'a été effectuée en 1961 et que votre mari figurait parmi les victimes officielles des manifestations algériennes. Victime de qui ? Le doute est permis. Il n'est pas trop tard pour réparer cette faute. Je veux m'y employer. Elle s'agita pour la première fois, se leva et vint prendre appui sur le plateau d'un vaisselier. « Monsieur l'inspecteur, tout ceci appartient au passé. Il ne sert à rien de revenir sur tous ces événements et de disséquer les responsabilités. » Elle faisait de longues pauses entre chaque mot et ponctuait ses phrases de longues expirations. « Mon mari est mort, mon fils est mort. Vous ne les ferez pas revenir. J'accepte que ma vie soit ainsi. J'espère les rejoindre le plus vite possible. » Pourquoi ? Que voulez-vous cacher ? Roger Thirault a reçu une balle alors qu'il participait à une manifestation. Vous saviez qu'il s'occupait d'un réseau d'aide au FLN ? Vous vous trompez. Mon mari n'avait aucun goût pour la politique. Il s'intéressait à son travail, à l'histoire. Il y consacrait tout son temps, au lycée comme à la maison. Le soir de sa mort, il rentrait après son dernier cours comme d'habitude. Elle se déplaçait dans la pièce avec ses manières de vieille, en évitant soigneusement la partie située près des fenêtres qui donnaient sur la rue. Je m'en approchais par simple curiosité, mais mon geste provoqua une véritable panique de sa part. Elle se plaqua contre le mur opposé, haletante. La surface qui entourait la fenêtre constituait un véritable no man's land où la poussière s'accumulait. Personne ne touchait jamais à cet endroit. Je saisis brusquement les rideaux et les fis glisser sur la tringle. La crémone était légèrement grippée. Je dus faire un effort pour ouvrir les battants de la fenêtre. Je soulevai ensuite le loquet qui maintenait les persiennes. Le jour envahit l'appartement. Un rayon de soleil éclata sur le mur où se tenait Madame Thirault. Je me penchai. 10 mètres en contrebas, des gens s'affairaient autour du stand de serrurerie dont je ne distinguais que le toit ondulé. Un groupe de jeunes garçons remontait les escaliers de la rue Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Madame Thirault avait cherché refuge dans la cuisine, en proie à une véritable crise d'hystérie. Elle pleurait, le corps agité de tremblements, de tics nerveux. Je posai mon bras sur ses épaules. « Je ne vous veux aucun mal, madame. Je suis ici pour vous aider. Venez sans crainte. » Je la pris par les poignets et l'entraînai, petit à petit, vers le lieu tant redouté. Je ne cessais de lui parler, de la réconforter. Plus elle s'approchait de la fenêtre et plus sa détresse devenait intense. Elle criait mais se laissait aller, abandonnant toute résistance. Je réussis à la placer à côté de moi et à poser ses bras sur l'appui. « Ouvrez les yeux, je vous en conjure. 22 ans ont passé, vous n'avez plus rien à redouter. » Elle se détendit, cessa de pleurer et de geindre. Ses paupières se soulevèrent, d'abord imperceptiblement, puis retombèrent. Les cils bougèrent à nouveau. Elle se décida, d'un coup, à regarder la rue. Vous étiez là, n'est-ce pas? Vous étiez là, à l'attendre quand il a été tué. Dites-moi, personne ne vous a jamais demandé de témoigner? Elle s'éloigna doucement de la fenêtre et retourna s'asseoir dans le fauteuil. L'épreuve l'avait changée. Elle paraissait plus forte, plus jeune, comme revenue à son âge véritable. Elle tourna la tête vers moi. Oui, j'étais accoudée à la fenêtre. Roger terminait son dernier cours à 5 heures. Normalement, il aurait dû être rentré depuis 2 heures, au moins. J'étais très inquiète à cette époque. J'étais enceinte de Bernard, une grossesse très difficile qu'il m'interdisait de sortir. Je devais impérativement rester dans l'appartement pour éviter un accouchement prématuré. Roger ne m'avait pas averti d'un éventuel retard. Et puis tout d'un coup, la manifestation a débuté. Les cris, les bousculades, les grenades qui éclataient, les coups de feu. J'étais comme folle. Je me précipitais à la fenêtre à tout instant pour guetter mon mari ou à la porte dès que j'entendais des pas dans l'escalier. À un moment, je l'ai aperçu dans la rue. Il s'approchait de chez nous. Je m'en souviens comme si ça se déroulait à présent. Il marchait avec un bouquet de mimosa et un carton de gâteau. Il a gravi quelques marches et s'est arrêté auprès de la balustrade pour observer les événements, les matraquages. Je lui ai crié de monter, de ne pas s'attarder, mais les bruits de la manifestation couvraient ma voix. Il était seul ? Au début, oui, mais peu après, un homme vêtu d'un uniforme de policier, un CRS, je crois, est venu s'installer à côté de lui. Son attitude n'était pas normale. Il portait son manteau de cuir plié sur le bras, malgré la pluie et le froid. Ensuite, il s'est glissé derrière mon mari et lui a bloqué la tête à l'aide de son avant-bras. Il avait un revolver dans l'autre main. J'ai crié du plus fort que je pouvais sans résultat. J'ai voulu lui descendre, mais je parvenais à peine à traverser cette pièce, à cause de Bernard, enfin à cause de mon ventre. Pauvre Bernard. Pardonnez-moi de vous obliger à remuer de pareils souvenirs, mais il n'y avait pas d'autre moyen. Un cinéaste belge a filmé une partie de cette scène. Il se trouvait de l'autre côté du boulevard, près du théâtre du gymnase. Je possède une photo tirée de ce document. Il s'agit des derniers instants de votre mari. Le visage de son assassin est à demi masqué, mais il reste très significatif. Vous voulez le voir ? Elle accepta. Je sortis le tirage réalisé la nuit précédente dans les studios de la RTBF. Vous le connaissez ? Elle secoua la tête. Non, inspecteur, je n'ai jamais rencontré cet homme. Je n'ai jamais vu mon mari en compagnie de policiers et je ne comprends pas pourquoi ils l'ont tué. Une dernière chose, madame, et j'en aurai terminé. Il y a un instant, vous avez déclaré que votre mari finissait ses cours à 17 heures. Comment expliquez-vous qu'il ne soit arrivé que deux heures plus tard près de chez vous? Il faut moins de 10 minutes pour couvrir la distance séparant le lycée des boulevards. Je ne me l'explique pas, inspecteur, c'est comme ça. Ces retards étaient fréquents? Une fois par semaine, quelquefois deux. Écoutez, inspecteur, ma grossesse nous interdisait tout rapport intime. Ce n'est pas agréable à avouer, mais c'est un fait. J'admettais que Roger ait besoin de rencontrer une femme normale. Quel mal y a-t-il à ça? Aucun, je suis désolée, mais mon métier repose sur l'indiscrétion. Je vous posais cette question parce que l'inventaire des poches de Roger Thirault mentionne la présence d'un ticket de cinéma, le midi minuit, pour être précis. Je pense que la vérité est là. Il y a 20 ans, un respectable professeur d'histoire devait avoir quelques réticences à avouer son goût pour le cinéma fantastique, même à sa femme. J'ai le numéro du billet. Je chargerai l'un de mes adjoints de vérifier auprès du Centre national du cinéma la date exacte à laquelle le coupon a été délivré. Elle m'adressa un sourire. Je ne parvins pas à penser, sans un fort sentiment d'angoisse, qu'il s'agissait là de son premier sourire depuis 22 années. Votre mari n'a pas été tué au hasard. Il est évident que son assassin obéissait à un plan précis, qui possédait le signalement de sa victime. Le film belge est édifiant à cet égard. Le CRS, ou l'homme déguisé en CRS, a quitté sa planque et s'est dirigé sans hésiter vers la rue Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Ces méthodes prouvent que nous avons affaire à un professionnel, comme pour le meurtre de votre fils à Toulouse. ou, hypothèse invraisemblable, votre mari était le sosie parfait d'une autre cible. Non, je pense qu'il était bien l'objectif du tueur. Votre mari gênait quelqu'un au point de devenir la victime d'une véritable exécution. Vous êtes sûr qu'il ne poursuivait aucune activité de type politique, syndical ou même humanitaire ? Non, je vous l'ai déjà dit. À part ses retards, ses sorties au cinéma, si je vous fais confiance, je ne vois rien de mystérieux dans la vie de mon mari. Roger n'a jamais abordé ces sujets à la maison. Nous parlions histoire ou littérature. Le Moyen-Âge le passionnait beaucoup et il se relaxait en écrivant une sorte de monographie sur sa ville natale, Drancy. Il aimait énormément ses parents qui vivent toujours là-bas, en Seine-Saint-Denis. Ils habitent rue du Bois de l'Amour. Je me demande encore si ce n'est pas cette maison qui lui a donné le goût de l'histoire. Comment ça ? À l'origine, le bâtiment faisait partie d'une ferme qui s'est transformée en restaurant au tout début du siècle. Pendant quelques années, on raconte qu'elle a surtout servi de maison de rendez-vous. Après la loi Marthe-Richard, on en a démoli les trois quarts pour construire une clinique d'accouchement. Mon mari y est né d'ailleurs. Il a passé toute sa jeunesse à deux pas de là, dans un pavillon rescapé lors de la rénovation de ce quartier. Cela ne vous intéresse pas trop, je le comprends. Enfin, cette monographie est chez mon fils, du moins chez sa fiancée Claudine. Vous la connaissez ? Oui, je l'ai rencontré à Toulouse. J'aimerais jeter un coup d'œil à ce travail. J'ai prévu de m'entretenir avec elle avant mon départ demain soir. Ils s'entendaient bien ? Très sincèrement, je n'en sais rien. La petite faisait des efforts pour venir ici. Bernard devait la traîner. Je savais bien qu'elle ne se sentait pas à l'aise à ma présence, mais c'était au-dessus de mes forces. Je ne suis pas facile à vivre. Ils donnaient l'impression d'être heureux ensemble. Je ne me souviens de rien d'autre. Je la quittai bientôt et descendis précautionneusement les marches cirées, sans lâcher la main courante. Je tournai à gauche vers les boulevards. Parvenu au milieu de l'escalier de la rue Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, je me retournai et levai la tête en direction de l'appartement de Madame Thirault. Elle était accoudée à la rambarde. Elle me fit un signe d'amitié. Je l'observai un moment avant de lui rendre son salut et m'engouffrai dans la bouche du métro. Je changeai de rame à la station Aubert pour prendre le RER. Dalbois m'avait conseillé de pousser jusqu'au terminus de Marne-la-Vallée. Une allée piétonne, protégée par une voûte d'altuglas, menait de la gare à l'esplanade où se rejoignaient les différentes lignes d'autobus qui desservent la ville. Un coup d'œil suffit à me prouver qu'il n'y avait pas que ces lignes pour desservir le paysage. La place était encastrée au centre d'une cuvette, surplombée par les collines. L'ouest du site était barré par la façade aveugle d'un gigantesque centre commercial. La seule note de fantaisie résidait dans la présence d'une construction rose d'une vingtaine d'étages posée au sommet de l'une des collines. L'autocar dans lequel j'avais pris place passait justement à proximité du bâtiment que je pus ainsi examiner tout à loisir. L'extérieur imitait assez parfaitement les façades des arènes espagnoles, une sorte de long mur circulaire percé d'alvéoles. Tous les 20 mètres, une colonne en demi-cercle grimpait tout le long de la construction. Des ouvertures pratiquées dans ces tourelles montraient le parcours des cabines d'ascenseur. Une large arcade permettait de découvrir une grande cour plantée d'arbres et de fleurs. Un panneau d'entreprise indiquait les noms et adresses des promoteurs et signalait le Grand Théâtre, 630 appartements prestigieux avec vue sur la Marne, 2 et 3 pièces disponibles. Prêt, pic, pac et pap possible. Le machiniste annonça la station Pyramide. Dalbois m'avait dit de contourner un immeuble de bureaux, puis de prendre à gauche vers le château d'eau. Il logeait dans une cité expérimentale, à mi-chemin entre le HLM et la maison individuelle. Les cellules d'habitation étaient conçues dans des cubes empilés selon un ordre apparemment anarchique. Le toit de l'élément inférieur constituait la courette de l'élément supérieur. Je sonnai à la porte 73. Dalbois vint m'ouvrir. « Bonsoir, Cadin. Je me demandais si tu n'allais pas te défiler. » Je marquai un mouvement de recul pour bien montrer que cette idée ne m'avait même pas effleuré. « Allons, c'est un véritable plaisir de répondre à ton invitation. » Il me présenta Gisèle, occupée à préparer le dîner. Elle ferma le four programmable à pyrolyse et se tourna vers moi en désignant son tablier de ses mains ouvertes. « Excusez-moi, mais je n'ai pas encore eu le temps de me changer. » Dalbois me fit visiter le moindre placard de son appartement, puis il m'entraîna dans le salon. Il brancha la télévision en prenant soin de couper le son. « Alors, tu avances ?» Je lui racontai mon expédition bruxelloise ainsi que mon entretien avec la mère de Bernard Thirault. Il accrocha dès que j'évoquais le tirage réalisé par les techniciens de la télé belge à partir de la bande vidéo. « Tu as cette photo sur toi ?» Je la posai sur la table basse entre les apéricubes et, les bouteilles d'alcool. « Ton histoire est absolument incroyable. » Il approcha le cliché de ses yeux. « Ton CRS a l'air vrai, à part l'absence de signes distinctifs. Logiquement, il devrait porter les numéros de sa compagnie et de son district. Tu ne crois pas ?»« En temps normal, oui, mais pas ce soir-là. » Je me suis renseigné. Les règlements étaient suspendus. Toutes les unités utilisaient les armes de réserve, y compris les armes offensives. Il est tout à fait plausible que les hommes aient reçu l'ordre de masquer leur code d'identification. Tu t'es embarqué dans une drôle d'aventure. Je t'ai déjà donné ce conseil, mais je préfère le renouveler. Laisse tomber. Enquête à Toulouse. Peinard. On ne t'en demande pas plus. Ça se terminera par un dossier classé sans suite. Qu'est-ce que tu as à perdre ? Rien. Tu trouveras bien une autre affaire de meurtre moins puante pour te rattraper. Un Ricard ? Non, merci. Avec cette chaleur, je ne supporte pas l'alcool. Alors passons à table. C'est moi qui ai choisi le menu, en souvenir de nos années de galère à Strasbourg. Gisèle Dalbois amena un minaudin, un plat en terre cuite garni d'une imposante choucroute au boudin blanc, qu'elle posa entre deux bouteilles de Gewürztraminer. Attaque Cadin, je te laisse pas intimider. Tu verras, elle réussit pas mal. C'est une choucroute strasbourgeoise avec la garniture de fête. Gisèle la cuit à la mode de Colmar. Elle rajoute un verre de kirsch une heure avant de servir. Qu'est-ce que tu en penses ? Fameux, je vous félicite, madame. Nous étions venus à bout du plat en nous aidant généreusement du vin d'Alsace. Gisèle nous installa sur la terrasse, au frais pour prendre le café. Dalbois se pencha vers moi, le visage grave, comme pour une confidence. « Tu sais, Cadin, nous appartenons à une minorité. » Puis il abandonna son air de comploteur. « Le matin, 8 Français sur 10 boivent du café. Ils ne sont plus que 4 à persévérer au déjeuner. Il n'en reste que 2 en milieu de journée et 1 seul après le dîner. Eh bien, tous les 3, nous sommes celui-là. » Il regarda sa montre et feignit la surprise. « Il faut se dépêcher, ton dernier train part dans 20 minutes. Je t'aurais bien proposé de dormir à la maison, mais les lits des mômes sont un peu courts. » Je pris bien garde de ne pas insister. La vie de famille, même celle des autres, ne me réussit pas trop. Ils m'accompagnèrent jusqu'à la gare. Pendant le trajet, je remis la photo extraite du film à Dalbois. « Rends-moi un dernier service. Essaie de te renseigner sur ce type. Il ne doit pas être facile à débusquer, surtout s'il s'est sûrement mis au rancard depuis le temps. Si tu ne trouves rien, je réfléchirai à ton conseil. » Il rangea le document dans la poche intérieure de sa veste. Le train entrait en gare. Je m'installai près de la vitre et l'abaissai malgré tous les péricolossaux spoguerci du monde. Dalbois, sur le quai, se hissait sur les pointes pour ne pas avoir à parler trop fort. « Je ne te promets rien, Cadin. Laisse-moi 3 ou 4 jours. Si je dois dénicher une piste, il ne me faut pas plus. Pour être tout à fait franc, ton CRS est plus dangereux qu'un bâton de dynamite. Je n'ai qu'une envie, me débarrasser de sa sale gueule le plus rapidement possible. Je t'appelle à Toulouse dès que j'ai du nouveau. Ciao. » Le wagon était vide. Je demeurai seul jusqu'à la station Vincennes. Là, une bande de loupards prit possession des lieux. Un grand type boutonneux s'approcha de moi. Il s'assit lourdement sur le siège qui me faisait face et allongea les jambes en posant ses chaussures à moins d'1 centimètre de ma cuisse. Pour toute réponse, j'écartai le pan droit de ma veste pour laisser apparaître l'étui de mon revolver et la crosse noire. Immédiatement, les 2 pieds rejoignirent le sol. Le gars se leva un peu nerveux. J'entendis quelques brides de conversation. « C'est un flic, il a un flingue. » ils se décidèrent à descendre à la station suivante, Nation, et je retrouvai ma tranquillité. Pas la grande surprise, non, mais un petit coup au cœur, tout de même le lendemain matin, quand je reconnus la voix de Claudine Chenet au téléphone. Je m'apprêtais à la joindre sans trop parvenir à me décider. Je préparais une première phrase, en changeais. Son appel mit un terme à mes tergiversations. Inspecteur, je tenais à vous remercier tout simplement. La mère de Bernard m'a contacté hier soir pour me raconter son aventure avec vous. Je ne sais pas si cette rencontre a fait avancer votre enquête. Je le souhaite, mais le simple fait que vous cherchiez à comprendre pourquoi Bernard a été tué nous est d'un grand secours. Je bredouillais lamentablement et lui laissais reprendre l'initiative. Vous retournez à Toulouse dès ce soir, c'est bien exact. Je crus discerner un accent de dépit dans son intonation, presque un regret. Oui, je prends le train à 16h. Nous pourrions nous voir d'ici là. N'importe comment, c'est nécessaire. J'ai encore quelques questions à vous poser. Que faites-vous à midi? Je travaille sur ma thèse. Moi qui pensais que les étudiants étaient toujours en vacances, ma phrase était partie un peu vite. Elle me répondit sans colère. Dans ce cas, ce sont de bien tristes vacances. Je préfère travailler, ça m'occupe l'esprit. D'ailleurs, mon sujet est plutôt agréable. Quant à votre proposition, c'est d'accord. Je fais des relevés sur le terrain, entre la porte d'Italie et la porte de Gentilly. Il y a un petit restaurant boulevard Kellermann, juste après l'entrée du stade Charletti. On peut s'y retrouver vers 1h de l'après-midi. Ça s'appelle le Stadium. J'acceptai le lieu et l'heure du rendez-vous, puis raccrochai. Je consacrai quelques minutes à mon temps à ranger mes vêtements dans la valise. Je descendis dans le salon de l'hôtel, où deux clients désœuvrés regardaient le journal télévisé de la première chaîne. Yann Marouzi annonçait le décès, survenu dans des circonstances tragiques, d'un des pères fondateurs de la vidéo. Il conclut son envolée dithyrambique par l'annonce d'un témoignage. Ainsi, à l'occasion de la mort de cet illustre précurseur de notre profession, nous avons la joie de vous présenter cette interview réalisée il y a au moins d'une semaine. Les techniciens du studio durent lui signaler, par geste, que cette joie cadrait mal avec la nature de l'événement, car Marouzi changea d'expression. Il se reprit. Voici donc cet entretien que notre rédaction a le triste privilège de dédier à la mémoire de ce pionnier des techniques nouvelles. Je refusais d'en supporter davantage. Je réglai la note, plaçai précautionneusement la fiche justificatrice de dépenses et me dirigeai vers la station de métro la plus proche. Je descendus à Maison-Blanche, ce qui me permettait de rattraper le boulevard Kellermann en contournant la caserne de la garde républicaine. Claudine m'attendait cachée au fond du troquet. Le comptoir était pris d'assaut par les supporters d'une équipe de rugby qui fêtait par avance la victoire de leur champion au cours du match de l'après-midi. J'avais avalé un copieux petit déjeuner, je me contentais donc d'un verre d'eau minérale. Alors cet interrogatoire, inspecteur, je suis prête. Elle avait dit ça d'une voix emplie d'émotion, un peu comme si cette conversation lui était devenue indispensable. J'en étais restée à notre voyage muet et à mon largage devant une station de taxi. Ça allait trop vite à mon goût, même si ça allait dans le bon sens. Je me composais à la hâte le visage fermé du professionnel. Est-ce que j'ai l'air d'une brute? J'ai simplement quelques précisions à vous demander. Nous n'avons aucun élément nouveau permettant d'expliquer l'exécution de votre fiancé. Rien sinon l'histoire de son père. Pour être clair, ça ne sert qu'à tout embrouiller. Elle m'interrompit. Mais vous avez une piste. Ma belle-mère a parlé d'une photo. Oui, j'espère pouvoir mettre la main sur ce CRS. Il a certainement flingué Roger Thirault en 1961. Je ne me fais pas trop d'illusions, j'ai une chance sur 100 de retrouver sa trace. La seule hypothèse digne d'intérêt consiste à admettre que les deux meurtres sont liés. Pourtant, ça ne colle pas du tout avec l'épisode de Toulouse. Pourquoi le meurtrier aurait-il pris tant de risques? J'ai pris la main de Claudine alors qu'elle l'a posée sur la table pour saisir sa tasse. Elle ne refusa pas le contact. Bien au contraire, elle tourna sa paume vers la mienne et nos doigts se croisèrent. Je me forçais à parler, mais ce n'était plus de questions ni de réponses que nous avions besoin. L'interrogatoire devait laisser la place aux confidences. Vous avez réfléchi à tous ces aspects depuis votre retour. Faites un effort. Bernard a-t-il fait allusion aux événements de la guerre d'Algérie, particulièrement au cours des derniers jours ? Non, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. Bernard ne me parlait jamais de ses problèmes. On discutait surtout de nos études, de ce que nous ferions plus tard. Pour le reste, on s'arrangeait. Ce n'était pas facile. Sa mère, vous l'avez vu, était complètement bloquée. Elle ne mettait pratiquement jamais le nez dehors. Heureusement, il gardait des liens très étroits avec ses grands-parents. C'était réconfortant de passer une journée chez eux. Ils habitent en banlieue, à Drancy, un vieux pavillon. C'est en Seine-Saint-Denis, mais on se croirait à 200 km de Paris, la vraie campagne. Ils possèdent un jardin avec des arbres fruitiers. D'après ce que j'ai pu comprendre, la mère de Bernard a été très choquée par la mort de son mari, au point qu'elle se refusait à élever son propre fils. Ce sont les grands-parents qui se sont chargés de lui. Vous devriez les rencontrer, ce sont des gens très accueillants, très chaleureux. Il n'empêche qu'ils ont cru retrouver leur fils 30 ans plus tard. Ils ont conçu l'éducation de Bernard de la même façon que s'il s'agissait de leur enfant. À aucun moment ils n'ont tenté de rétablir les liens avec leur belle-fille, de peur d'être séparés de Bernard. Je les comprends, en un sens. Elle parlait très vite, le front baissé pour éviter mon regard. Elle tentait de s'expliquer sans rouvrir trop de plaies. Soudain, elle fut debout et retrouva son air enjoué. Cette fois-ci, je tiens à régler les consommations. Je suis en dette envers vous. Ne faites pas l'innocent. Je me rappelle de ce pourboire au chasseur de l'hôtel. Je n'ai pas réussi à vous le rembourser. Dehors, elle me prit par le bras et me guida à travers les cités HBM, de la rue Taumir et de l'avenue Caffieri. Nous avons rejoint la poterne des peupliers en silence. Sous le pont de pierre du chemin de fer de ceinture, une meute de chiens s'attaquait en vagues successives au contenu d'une benne à ordures placée là par la municipalité pour débarrasser les Parisiens de leurs déchets volumineux. Un berger au poil jaune avait pris l'avantage. Il s'installa en haut du monticule. À notre approche, il montra deux rangées de dames menaçantes qui nous contraignirent à changer de trottoir. Claudine s'engagea dans la rue Max Jacob qui grimpe en pente douce vers le quartier Italie. On distinguait les tours de verre et d'acier derrière les immeubles en briques rouges. Au milieu d'un coude que faisait la chaussée, elle obliqua sur la droite et poussa un portillon métallique peint en vert. Je découvris un vaste jardin public planté d'arbres dont les différents niveaux étaient reliés par d'imposants escaliers de pierre. Claudine pointa un doigt, désignant les remparts percés des meurtrières. Nous sommes sur les vestiges des fortifications de Paris. Il n'en reste pas grand-chose. Tout a été cassé à partir de 1920. Les derniers bastions ont sauté au moment de la construction du périphérique. J'ai trouvé ce morceau intact en me promenant. Au milieu de l'échangeur de la porte de Charenton, il y a un fortin d'angle transformé en dépôt de voirie. C'est Thiers qui les a fait édifier à partir de 1842. 30 kilomètres d'ouvrages de défense. Le plus drôle, c'est qu'il a été chargé de les attaquer au moment de la Commune de Paris en 1871. Nous nous étions approchés du bord des remparts. Nous dominions un vaste espace occupé par un parc de verdure équipé de jeux d'enfants, tourniquets, toboggans. Le jardin butait à droite sur la masse bourdonnante du boulevard périphérique et à gauche sur les cités HBM. Plus loin à l'horizon, une multitude de petites constructions annonçait les premières lignes de la banlieue. Arcueil, le Kremlin, Bicêtre. À flanc de colline, coincé entre l'autoroute et les grandes cités, le cimetière de Gentilly. Claudine me montra toute cette étendue d'un geste du bras. Regardez comme c'est calme. Pourtant, après la construction des fortifs, des milliers de personnes se sont installées sur cette zone. Ils en avaient le droit ? Non, logiquement, c'était interdit. Mais quelquefois, les lois cèdent le pas aux réalités. La crise du logement et les prix des loyers, par exemple. Comme les squatteurs aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps, c'était nos grands-parents qui habitaient les bidonvilles. Ici, c'était un des quartiers les plus sordides, avec les environs de la porte Saint-Ouen. Le royaume des chiffonniers. Pas d'eau, de gaz, ni d'électricité. Toutes les saletés étaient évacuées dans une rivière qui coulait dans le creux, au bas du cimetière. La Bièvre, un véritable égout à ciel ouvert. Mais je vous ennuie ? Vous vous trompez. Je pensais simplement que vous n'aviez aucune chance d'être embauché par le syndicat d'initiative de la ville de Paris. Continuez. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous regrettez cette époque. Moi non. Ce coin devait être un repère de malfrats, d'assassins, une cour de des miracles. Bien entendu, ça existait, mais ce n'est qu'une partie de la réalité. On retient plus facilement les images de casques d'or et les ambiances des bouquins de Le Breton. Le dimanche, les talus des fortils ressemblaient à la forêt de Saint-Lys. Les familles venaient prendre l'air. Il y avait même des étangs. On pêchait. Pas mal de café aussi. Inévitablement. Enfin, je préfère la nostalgie des guinguettes à celle des camions de frites saucisses. Bien sûr, il y avait des bagarres, des règlements de compte, mais les ambiances de bal sont rarement détendues, non? Les gens venaient pour oublier la fatigue d'une semaine de travail. À l'époque, on trimait 60 heures dans des conditions extrêmement pénibles. La légende et la littérature ont gommé cet aspect des choses. On a préféré parler de la jungle des barrières. Croyez-moi, les criminels ne devaient pas se gêner pour venir se planquer dans ce maquis de bicoque. Peut-être, mais quelques dizaines d'années plus tôt, on mettait tous les crimes sur le compte des habitants des faubourgs. Prenez un journal, ouvrez-le à la page des faits divers, vous vous apercevrez que rien n'a vraiment changé. Les brebis galeuses sont maintenant ceux qui logent dans les grands ensembles, en lointaine banlieue. Les Minguettes, les 4000. Les immigrés ont remplacé les Romanichels, les jeunes chômeurs ont pris la place des Bichens. Vous ne me ferez pas croire que la criminalité était nulle. Il y a des chiffres. Non, elle n'était pas inexistante. Elle correspondait, en fait, à celle de Paris et du département de la Seine, ni plus ni moins. Certains avaient intérêt à donner une image négative du peuple de la zone. Ils ont utilisé le phénomène de rejet pour les chasser de la périphérie immédiate de la ville. Ça continue avec l'utilisation actuelle du thème de l'insécurité. On tente d'assimiler les couches sociales les plus durement frappées par la crise à des groupes présentant des dangers pour le reste de la société. Un véritable tour de passe-passe. Les victimes sont transformées en épouvantail. Et ça marche. La grand-mère la mieux attentionnée serre son sac à main sur son ventre dès qu'elle croise un garçon aux cheveux un peu trop bouclés. Rien que cette peur permet de légitimer par avance les mesures prises à l'encontre de ces gens. Vous oubliez que vous parlez à un flic. Elle sourit et accentua la pression de son bras sur le mien. Non, pas une minute. Allez donc consulter les registres de police du temps des fortifications. Le travail de vos ancêtres, en quelque sorte. Les crimes de sang étaient extrêmement rares. Les délits les plus courants consistaient en des escroqueries minables, des vols d'aliments, des scènes de ménage. Pourtant, la grande majorité des rubriques de faits divers ruissellent de sang. Un bon filon pour vendre du papier. On peut passer au kiosque et acheter certains journaux, on ferait la même constatation. Assassins, sadiques, violeurs, tous les sales rôles sont tenus par des ouvriers, des miséreux. Jamais de notables. Quand on parle de médecins, d'avocats, de chefs d'entreprise, c'est en rubrique société. On fait preuve de pudeur, alors que les sommes en jeu dans les affaires de fraude, de fausses factures, de détournement de fonds sont 10 fois supérieures au total de tous les hold-up de France et de Navarre. En conclusion, vous estimez que nous ne courons pas après les bons lièvres. Vous courez uniquement après les plus petits et vous laissez les gros se repaître tranquillement. Vous me connaissez mal, mes enquêtes précédentes prouvent le contraire. J'avais envie d'en dire davantage, ne pas passer à ses yeux pour ce salaud de flic de service, sans pour autant avoir l'air de me justifier. J'essayais une phrase dans ma tête, mais la dialectique décida de me laisser en plan. Je me réfugiais dans le silence. Claudine remarqua mon flottement. Elle en profita pour enfoncer un nouveau coin. Le système se protège efficacement. La police constitue l'un des éléments majeurs du dispositif. De temps en temps, il faut bien trouver une victime expiatoire pour montrer que les couches supérieures peuvent être contaminées. et prouver que leur force réside dans le fait qu'elles rejettent les mauvais sujets hors de leur sein sans ménagement. Landru, Pétiot, on les charge un maximum et on se sert de ces véritables monstres pour établir le côté aberrant de leur conduite. De toute évidence, elle n'est pas dans l'ordre des choses. Le chômeur qui dévalise une épicerie s'inscrit, lui, dans la vie de tous les jours. Il est donné comme représentatif de sa classe, de son environnement. Il devient un pur produit de son milieu et non celui d'un système qui le voue à la misère et au vol. Si on suivait votre raisonnement, tous les chômeurs devraient devenir des truands. Heureusement, ce n'est pas la règle. Elle aspira une large bouffée d'air. Sa poitrine se gonfla, soulevant le corsage d'été. Mes yeux saisirent l'éclat noir et dentelé d'un soutien-gorge. Mon cœur abandonna son rythme de croisière et se lança à l'assaut des records. Vous refusez de m'écouter. Je suis disposé à admettre qu'il existe une certaine égalité entre le PDG et un pauvre type. Ils ont autant de chances l'un et l'autre de devenir maniaques sexuels. Vous ne m'enleverez pas de l'idée qu'un chômeur a plus d'occasions d'être tenté par un vol à l'étalage pour de simples raisons de survie. Claudine se passionnait. L'emportement colorait ses joues du même rouge que son sein furtif avait incendié les miennes. Je capitulais. Nous n'arriverons pas à nous mettre d'accord. Nous avons déjà un terrain d'entente, il ne faut pas l'oublier. Je ferai tout mon possible pour arrêter l'assassin de Bernard. Qu'il soit faible ou puissant, clochard ou milliardaire. Tant que j'y pense, Madame Thirault a évoqué devant moi l'existence d'une plaquette, une sorte de monographie de la ville de Drancy que son mari rédigeait durant ses loisirs. Vous êtes au courant ? Claudine acquiesça. Oui, elle est à la maison. Bernard voulait la terminer, en souvenir de son père. Je peux vous l'envoyer à Toulouse dès demain, si vous pensez que cela présente un intérêt pour votre enquête. Je préfère régler ce détail le plus rapidement possible. J'aurai le temps de passer chez vous avant de rejoindre la gare. Je demanderai au taxi de faire un détour. Elle inscrivit son adresse sur une page de calepin qu'elle déchira avant de me la remettre. 7 heures après la fin de cette discussion, je débarquai à la gare centrale de Toulouse. Le brigadier Lardenne m'attendait sur le quai d'arrivée du Courail, bien qu'il ait terminé son service depuis la fin de l'après-midi. Il me déposa devant mon domicile et profita du trajet pour m'informer de ses progrès dans le maniement des jeux électroniques. Il avait même réussi à battre son fils à la bataille des Malouines. 4-2, un score sans appel. À l'entendre, il ne s'était rien passé de plus important pendant mon absence.